SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au programme. Bertrand Nganamé et Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner sur SBS French ce jeudi 20 juin. Au sommaire de l'actualité, les sports, une analyse de l'économie australienne où il sera notamment question des impôts des riches et l'accès au logement. Nous découvrirons également des éléments de l'histoire cachée de l'Australie, notamment l'origine d'une solution controversée pour endiguer l'immigration incontrôlée. Mais sans plus tarder, l'actualité de ce jeudi. Au sommaire, un homme devant le tribunal pour une fausse alerte à la bombe qui a provoqué un bouclage partiel du centre de Melbourne. Et en France, un viol sur une mineure juive suscite le mois en pleine campagne électorale. Et au Liban, le chef du Hezbollah menace Chypre dans un discours télévisé.
But whether we can have that conversation calmly and rationally remains.
Un homme sera traduit en justice aujourd'hui pour une prétendue alerte à la bombe qui a conduit à la fermeture partielle du CBD de Melbourne hier après-midi. L'homme de 33 ans a été accusé d'une série d'infractions, notamment de possession de substances et d'engins explosifs, de fabrication d'une fausse bombe, de trafic de drogue, de possession d'armes, de recel et de vol de voitures. La police affirme avoir trouvé des engins explosifs et des armes lors d'un raid dans une maison de Geelong après l'alerte à la bombe qui, selon lui, n'était pas liée au terrorisme. Et un éminent expert en immigration affirme que la cohésion sociale de l'Australie serait menacée si la question de l'immigration dominait les prochaines élections fédérales. Le docteur Aboul Rizvi, ancien secrétaire adjoint du ministère de l'immigration, a déclaré au National Press Club de Canberra que les plafonds proposés pour les migrants pourraient signifier la fin de l'expérience multiculturelle de l'Australie. Suite à la révélation que la migration nette a atteint plus de 500 000 personnes au cours de l'année jusqu'en septembre 2023, le gouvernement albanaisé s'est engagé à réduire le chiffre annuel à 235 000 personnes par an. Le chef de l'opposition, Peter Dutton, a déclaré de son côté qu'il irait plus loin en réduisant la migration nette à 160 000 personnes seulement s'il était élu. Le docteur Rizvi s'est dit favorable à une discussion réfléchie sur la migration nette, mais craint qu'un débat désorganisé ne conduise à des troubles civils.
But whether we can have that conversation calmly and rationally remains an open question. The danger with an election fought on immigration levels, as many past Australian politicians on both sides have recognised, is that it could degenerate into Trump-style name-calling and civil unrest, including at polling centres.
Une délégation ministérielle australienne se rendra dans la province d'Enga, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur le site du glissement de terrain qui a tué environ 2000 personnes au mois de mai dernier. Cette mission des hauts rangs est en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le 30e forum ministériel annuel entre le PNG et l'Australie et a aussi pour tâche de renforcer la coopération sur les plans sécuritaires et économiques avec le voisin du Pacifique. Le gouvernement australien a fourni 2,5 millions de dollars d'aide humanitaire à la PNG à la suite du glissement de terrain massif. Il faut souligner que la ministre des Affaires étrangères australienne, Penny Wong, a déclaré que l'Australie fournira une aide supplémentaire pour la reconstruction et la réhabilitation de la province d'Anga. Et le nombre d'insolvabilités des entreprises australiennes a atteint un niveau record. L'indice de risque d'entreprise de Credit Watch montre que les petites entreprises des secteurs de l'électricité, du gaz et des services de déchets sont à l'origine de la hausse du taux d'insolvabilité. Cette catégorie, au sens large, a connu une augmentation de 89% du nombre d'entreprises placées en administration externe depuis l'année dernière. Les défaillances d'entreprises, qui comprennent les insolvabilités, les fermetures, les radiations et les radiations par l'autorité de régulation financière, continuent d'être dominées par les entreprises du secteur de la restauration. L'inflation galopante, la hausse des taux d'intérêt et la faiblesse de la demande sont pointés du doigt pour expliquer une baisse croissante des marges. En France, un groupe de garçons a été accusé d'avoir violé une fille de 12 ans dans une affaire qui a suscité un choc et une inquiétude généralisée. Deux des garçons de la ville de Courbevoie ont été inculpés de plusieurs chefs d'accusation préliminaires, notamment des viols aggravés en réunion sur une mineure, des violences et d'insultes publiques à caractère religieux, des menaces de mort, des tentatives d'extorsion et d'enregistrement ou des diffusions illégales d'images à caractère sexuel. Les autorités n'ont pas confirmé l'identité ou la religion de la jeune fille, mais il a été largement rapporté que l'attaque était motivée par son appartenance à la religion juive. À moins de 2 semaines des élections législatives anticipées, ce viol, en groupe, a suscité l'émoi dans la classe politique. Valérie Gasse pour RFI.
Le crime est odieux et sordide. La victime n'a que 12 ans et a été traitée de sale juive. Dès que les faits ont été connus, les responsables politiques se sont indignés. Emmanuel Macron a dénoncé le fléau de l'antisémitisme. Le patron des socialistes, Olivier Faure, une horreur. Jean-Luc Mélenchon s'est dit horrifié par ce viol et ce qu'il révèle du racisme antisémite. Le chef des Insoumis, dont les déclarations depuis les massacres du 7 octobre en Israël ont souvent été jugées ambiguës sur l'antisémitisme par ses adversaires politique. Jordan Bardella, le président du RN, a d'ailleurs dénoncé le contexte dans lequel le drame est survenu.
Se diffuse et se développe de manière extrêmement inquiétante depuis le 7 octobre dans notre pays, un antisémitisme d'atmosphère qu'il nous faut combattre et que la République devra évidemment combattre sans faiblir.
Et comme pour lui répondre, Gabriel Attal a promis sur TF1 la fermeté pour les mineurs auteurs du viol et a demandé aux dirigeants politiques de la responsabilité.
J'appelle véritablement l'ensemble des responsables politiques à mettre des digues sur la question de l'antisémitisme. Assez des discours qui banalisent, assez des propos qu'on tolère, qui installent dans le pays un climat qui, je le dis, est mortifère.
Cette affaire projette la question de l'antisémitisme dans la campagne des élections législatives.
C'était Valérie Gasse pour RFI. Et en Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République a annoncé une série d'arrestations dans la mouvance indépendantiste 5 semaines après les violences qui ont secoué l'archipel français dans le Pacifique Sud. La cellule de coordination des actions de terrain, le CCAT, un collectif indépendantiste qui a toujours démenti être à l'origine des violences, dénonce lui ce qu'il appelle une provocation. Explication Marie Casadebé pour RFI.
Il est 6h du matin, heure locale, ce mercredi, quand la gendarmerie interpelle 11 personnes à Nouméa, la capitale de l'archipel, et Mondor, une ville voisine. Parmi elles, Christian Tain, le responsable de la cellule de coordination des actions de terrain, la CCAT. Un collectif né fin 2023 qui regroupe syndicats, mouvements politiques et associatifs. Au 3e jour des violences, après la mort d'un gendarme, Gérald Darmanin le pointe du doigt. Pour le ministre français de l'Intérieur, la CCAT est l'instigatrice des émeutes. Il la qualifie même d'organisation mafieuse. L'arrestation des 11 suspects a été réalisée dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs, vol avec armes en bande organisée, complicité de meurtre ou tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Au vu de la gravité des faits, leur garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures. Au cours de ces 5 dernières semaines, 9 personnes ont trouvé la mort en Nouvelle-Calédonie, dont 2 gendarmes. On compte également des centaines de blessés et des dégâts évalués à 1,5 milliard d'euros.
Et le chef du Hezbollah a menacé Israël et Chypre dans un discours télévisé à la nation libanaise. Cette intervention survient un jour après qu'un haut responsable de l'administration américaine ait rencontré des dirigeants de la région pour tenter d'apaiser les tensions. Le Hezbollah a passé les 8 derniers mois à échanger des tirs avec Israël parallèlement à la guerre à Gaza. Dans son allocution, le chef du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a déclaré qu'aucune partie du territoire israélien ne serait à l'abri de nos missiles et drones et si Israël intensifiait le conflit dans la région. Hassan Nasrallah a également pointé du doigt Chypre, car il aurait autorisé Israël d'utiliser ses aéroports et ses bases pour des exercices militaires.
The Cypriot government must be warned that opening Cypriot airports and bases for the Israeli enemy to target Lebanon means that the Cypriot government has become part of the war, and the resistance will deal with it as part of the war.
Et retour en Australie, les droits d'une adolescente autochtone ont été bafoués avant son suicide. Un coroner a conclu que les droits d'une adolescente autochtone ont été bafoués avant qu'elle se suicide en 2021. Le coroner du Victoria, Simon McGregor, affirme que les responsables n'ont pas écouté la jeune fille de 17 ans lorsqu'elle a exprimé le désir d'être connectée à sa culture pendant son placement en foyer d'accueil. Monsieur McGregor a souligné l'importance d'écouter les expériences vécues dans ses conclusions d'enquête pour cette adolescente de 17 ans. Elle avait été placée dans 7 foyers d'accueil différents sur 4 ans, allant de 2 semaines à 12 mois. Il indique qu'elle souffrait de troubles alimentaires, d'automutilation, de consommation des substances et nourrissait des idées suicidaires. Elle avait également une relation limitée avec sa mère et n'avait plus aucun contact avec ses frères et sœurs malgré son désir de les voir. Et une sculpture de 14 millions de dollars de l'artiste de Brisbane, Lindy Lee, est enfin arrivée à la National Gallery of Australia. C'est l'acquisition la plus chère jamais réalisée par la galerie. Nick Mitzevich, le directeur de la galerie, espère que cette installation, conçue pour durer au moins 500 ans, deviendra une icône de Canberra lorsqu'elle sera visible par le public à partir du mois d'octobre prochain. Un coup d'œil météo à travers l'Australie, Perth, partiellement nuageux, 19 degrés, Adélaïde, pluie et 15 degrés, Melbourne, partiellement nuageux, 13 degrés, Hobart, temps pluvieux et 12, Canberra, pluie en fin de journée et 11 degrés, Wollongong, partiellement nuageux et un maximum de 16, Sydney, conditions similaires, 17 degrés, Newcastle, partiellement nuageux aussi, 17 degrés. Brisbane, assez ensoleillé, 23. Cairns, partiellement couvert, 27 degrés. Et Darwin, temps ensoleillé, et 32 degrés. Après une courte pause, nous allons passer au magazine des sports, magazine signé Jean-Noël Ducasse.
Le journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord l'Euro de 2024. Kylian Mbappé ne pourrait pas jouer demain contre les Pays-Bas. Il était absent de l'entraînement collectif hier mercredi à Paderborn. Antoine Grenier, RFI.
Ce que l'on sait, c'est que Kylian Mbappé est resté avec les Bleus après des examens dans un hôpital de Düsseldorf qui ont confirmé le diagnostic initial, c'est-à-dire une fracture du nez. L'attaquant des Bleus est rentré au camp de base de Paderborn. La Fédération française indique qu'il suivra des soins dans les prochains jours sans subir d'intervention chirurgicale dans l'immédiat. La FFF qui précise également qu'un masque va être confectionné de façon à permettre d'envisager une reprise de la compétition après une période consacrée aux soins, période d'indisponibilité qui n'a pas été révélée. Un coup dur pour les Bleus, inédit puisque Mbappé n'a jamais raté un match de phase finale d'une grande compétition jusqu'ici. Une absence quelque peu inquiétante aussi puisque depuis juin 2022, lors des 5 matchs où Mbappé n'était pas titulaire, l'équipe de France n'a pas gagné.
Et puis dans les matchs d'hier, l'Allemagne a battu la Hongrie 2-0 et jouera pour la première place du groupe A contre la Suisse dimanche prochain. La Suisse qui a fait match nul avec l'Écosse, 1-0. La Croatie et l'Albanie ont fait match nul également, 2-0. Mardi, le Portugal a battu la République tchèque 2-1 et la Turquie a battu la Géorgie 3-1. Olivier Pron, RFI.
Euro qui se poursuit bien sur le terrain, en revanche, pour les Portugais de Cristiano Ronaldo, par exemple, vainqueur dans la douleur pour leur entrée en lice, 2-1 face à la République tchèque, victoire aussi dans ce groupe F de la Turquie, 3-1 face à la Géorgie, au bout d'un match passionnant, une sélection turque qui possède de grands espoirs du football dans ses rangs, comme la pépite du Real Madrid, Arda Güler, 19 ans, mais aussi des joueurs expérimentés, à l'instar du capitaine Hakan Çalhanoğlu, 30 ans, qui estime que ce groupe portugais peut aller loin dans le tournoi.
Je le sens bien parce que même si j'étais dans le groupe lors des deux euros précédents, cette fois il y a une atmosphère différente. Je vois le groupe, je vois le staff, notre manière de travailler. Chaque jour nous travaillons dur pour atteindre notre objectif. Bien sûr, nous espérons franchir un tour, sortir du groupe. Deux matchs difficiles nous attendent. Nous savons que le Portugal est l'équipe favorite dans notre groupe, mais tout est possible en football. Donc nous allons essayer et aller de l'avant.
C'est le principe, la Turquie d'Hakan Çalhanoğlu face au Portugal samedi après-midi.
On passe aux natations avec les sélections olympiques en France qui se poursuivent. On vous propose ce focus sur Léon Marchand, la nouvelle star de la natation française. Lundi, il a validé sa qualification olympique pour le 400 mètres 4 nages. Et hier, il l'a fait pour le 200 mètres papillon et le 200 mètres brasse. Christophe Diremzian, RFI.
1 minute 57 secondes, 90 centièmes, Léon Marchand.
Ces jours de marathon et de défis pour le nageur français le plus en lumière. Dès la session du matin, double ration de longueur, deux qualifications olympiques à aller chercher pour le phénomène. Des smartphones brandis dans les tribunes pour filmer la star. Cana et Edouard, apprentis nageurs, viennent admirer en chair et en os.
Je viens de le voir pour la première fois, sinon je vais regarder par rapport à des vidéos.
Je trouve qu'il est très bon et que je m'inspire un peu de lui, j'essaie de faire à peu près pareil.
Observateur à l'œil plus aiguisé, Rodolphe Vernillet, ancien nageur et membre des Vikings de Rouen, apprécie les qualités techniques du nageur vedette.
C'est une personne qui s'applique énormément sur des phases très importantes qui sont le départ, la coulée, toutes les reprises de nage, ce qui lui laisse peu de distance à faire en nage pur. C'est une phase de la natation qui, pour moi, devrait être travaillée plus souvent chez les jeunes parce que c'est des phases qui sont dures peut-être, mais des phases où on peut gagner beaucoup de temps.
Du temps, Léon Marchand n'en a pas beaucoup. Échauffement, récupération, l'enchaînement des courses oblige à tout minuter. Pas encore le temps d'aller à la rencontre des fans depuis son retour en France, même s'il a conscience d'un certain engouement autour de lui.
Oui, je le sens. Après, j'ai pas trop profiter, je ne suis pas allé vraiment en public à Toulouse, donc je n'ai pas vraiment ressenti tout ça. Je ne me suis pas vraiment préparé concrètement. Mais voilà, j'ai fait l'expérience l'année dernière et je pense qu'il faut que je sois un peu plus naturel avec tout ce qui se passe autour, avec les médias, avec la pression, avec les gens qui m'en parlent aussi. J'ai une semaine assez intense quand même, donc je vais me focus sur ça.
Et avec le temps de 1:54.08, Léon Marchand établit un temps éligible à la sélection aux Jeux Olympiques de Paris.
Et pour l'instant, c'est un sans faute. Trois objectifs, trois portes ouvertes sur l'aréna de la Défense, site des futurs exploits de la natation au JO et la satisfaction d'avoir su enchaîner victorieusement 200 mètres papillon et brasse en moins d'une heure.
C'est des choses qu'il n'y a pas beaucoup de monde font, je pense. 200 pas, 200 brasse, c'est un duo assez bizarre, j'ai envie de dire. Et j'adore tout ce qui est bizarre. Et c'est cool de pouvoir changer de nage comme ça. Et voilà, aller chercher de ce genre de choses, ça me fait beaucoup de confiance pour la suite.
Mais après le plongeon dans le grand bain, Léon Marchand prend enfin le temps d'un petit bain de foule, séance de dédicace improvisée.
Bon anniversaire. Bon anniversaire.
Mao reçoit sa photo signée comme cadeau d'anniversaire pour ses 11 ans. Il en pleure de joie.
C'est peut-être pas le plus beau, mais un des meilleurs jours de ma vie. Ça fait vraiment un choc de le voir ici et de près surtout. Il était incroyable. Et il est qualifié au JO et ça va être trop bien.
Modèle inspirant comme l'ont été Laure et Florent Manoudou, Alain Bernard ou Camille Muffat, Léon, le marchand d'espoir d'une natation française en pleine remontée des sommets, attend désormais les Jeux avec envie pour conquérir définitivement les cœurs. Christophe Diremzian, Chartres, RFI.
La nageuse Regan Smith a battu le record du monde du 100 mètres d'eau mardi lors des sélections américaines pour les Jeux Olympiques de Paris en s'imposant en 57 secondes et 100 centièmes. Smith a surpassé le record établi par l'Australienne Kayleigh McEwen en 57 secondes et 33 centièmes en octobre de l'année dernière. Et puis un mot de cyclisme avec le Tour de France de 2026 qui partira de Barcelone en Espagne. L'édition de 2024 va démarrer samedi le 29 juin à Florence en Italie et sera diffusée en direct sur la télé SBS. Cyclisme toujours et je vous propose ce focus sur le Mauricien Christopher Lagan, le premier de l'île Maurice à se qualifier au JO de Paris. Reportage Abdullah Erali pour RFI.
Favori du Tour de Maurice après ses victoires en 2022 et 2023, Christopher Lagan n'a pris que la cinquième place de l'épreuve terminée vendredi dernier. Pas de podium non plus lors de la course en circuit hier dans la capitale, mais rien à craindre. Le cycliste mauricien inscrit ses résultats dans sa préparation pour les JO de Paris.
C'est une bonne chose et maintenant je vais compléter ma préparation avec un mois de stage en France. Et pour reprendre encore plus de rythme et bah, essayer d'arriver au mieux de ma forme.
À 25 ans, Christopher Lagan écrit l'histoire du cyclisme mauricien en se qualifiant pour la course sur route olympique. Un rêve d'enfant réalisé à Paris. Son objectif sera de faire rêver tout un pays.
Pourquoi pas essayer de prendre une échappée, montrer le maillot de Maurice à l'avant de la course. Donc si je peux montrer le maillot de Maurice quelque part dans la course, déjà ce sera une réussite pour moi. Et ben on verra le jour J, comment sont les jambes, mais en tout cas j'espère que je fais une belle course.
Christopher Lagan a surpris ses fans le mois dernier. Il a remporté la dernière étape du Tour d'Algérie et décroché la troisième place finale. Ce grimpeur endurant se forge un nom en Afrique et aspire aux grands rendez-vous internationaux.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Belle chanson, il fait beau sous la pluie, une chanson de Pat Kala et le Super Mojo. C'est toujours à l'écoute du programme en français sur la radio SPS. Et dans votre programme, nous allons avoir la rubrique de l'histoire cachée de l'Australie. On apprendra notamment la genèse et les dessous de la solution dite du Pacifique pour contenir l'immigration incontrôlée en Australie. Mais tout de suite, une courte pause qui sera suivie de l'analyse de l'économie australienne avec Nicolas Perpich.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Eh bien, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Et on parle de ces gens les plus riches du pays qui ne paient pas nécessairement le plus d'impôts selon les nouvelles données.
Oui, voilà, c'est des statistiques qui viennent sortir par le Bureau australien des statistiques, Australian Tax Office, et très intéressant. Donc, ils ont trouvé qu'il y a plus de 100 Australiens qui ont gagné chacun plus d'1 million de dollars l'année 2021-22, mais ils n'ont pas payé un centime d'impôt. Donc c'est assez extraordinaire. Donc plus de 100 personnes, ça c'était 66 personnes il y a un an, donc bien plus maintenant. Et ils ont trouvé des façons de ne pas payer les impôts, des déductions. Par exemple, ils ont trouvé à peu près 279 millions de dollars de déduction. Comme ça, ils ont 0 dollar à payer en impôts. Beaucoup de ces déductions sont des donations à des associations caritatives, mais quand même, c'est assez extraordinaire, ils ne payent pas un centime. Donc, c'est intéressant parce que si le gouvernement fédéral veut plus de revenus, c'est pas que nécessairement ils doivent lever le niveau des impôts. Il faut juste trouver il faut boucler les trous. Il faut empêcher les gens de pouvoir faire ça autant qu'ils le font maintenant, les tax loopholes. Mais c'est des loopholes, c'est des trous qui sont, c'est pas illégal. c'est la plupart de ces choses-là, c'est complètement légal. Mais ça veut dire qu'en fin de journée, ces gens payent pas d'impôts. En tout, il y a eu 2,3 millions d'Australiens autour du pays qui ont, en plus de leur salaire d'habitude, ils ont gagné des salaires à cause des loyers. Donc ça ajoute beaucoup. C'est des gens, bien sûr, qui sont à la retraite, ou c'est des investissements. Mais tout ça compte, et ça veut dire que pour eux, ils dépendent pas juste de leur salaire, mais aussi des investissements importants. Et il y a des déductions à faire là-dessus aussi. Ça dépend de quel état, mais il y a des déductions importantes qu'on peut faire avec des investissements si en fait le gouvernement fédéral ne change pas la loi. C'était la proposition justement d'un ancien leader du Parti travailliste, Bill Shorten, qui voulait changer la loi autour de ça, des investissements et des déductions des impôts qu'on peut avoir là-dessus, mais il a perdu les élections. Donc ça montre à quel point il y a une pression pour pas changer et pas fermer ces loopholes, si on veut. Si on regarde les endroits où les gens gagnent le plus d'argent autour de l'Australie, avec les plus hauts salaires, ça reste plus ou moins à Sydney. 7 des top 10 des quartiers sont à Sydney. Numéro 1, c'est Double Bay. C'est en plein centre de Sydney, pas loin du harbour, pas loin de la mer. Et là, en moyenne, les gens ont gagné 354 000 dollars l'année. Après ça, il y a des endroits comme Cottesloe et Pittman Grove à Perth, où c'est presque 300 000 dollars. Sinon, il y a des endroits comme Darling Point. Mais l'inverse, les endroits avec les salaires les plus bas, c'est souvent autour des universités parce qu'il y a pas mal d'étudiants. Et donc, les étudiants, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Alors, par exemple, Callaghan, qui est à côté de l'université de Newcastle, au sud de Sydney, là, en moyenne, les gens, ils gagnent 20 000 dollars, donc vraiment très, très peu. Mais les gens qui gagnent le plus d'argent, c'est les chirurgiens, 460 000 dollars de salaire l'année, donc les chirurgiens, les gens dans la finance, etc. Et par contre, les gens qui gagnent le moins d'argent, c'est les gens qui travaillent, qui soignent les autres, les infirmières ou les support workers, les gens qui travaillent avec des gens avec la disabilité, les conducteurs de bus, etc. Donc des jobs comme ça où beaucoup on s'occupe des gens. Mais c'est des statistiques vraiment très intéressantes qui font un peu une carte des salaires et des impôts autour d'Australie qui vient de sortir grâce au bureau australien des statistiques.
Et oui, et sur cette question de salaire, j'ai vu un rapport que beaucoup de jeunes quittaient les grandes villes pour aller vivre en région rurale. Et justement, on va parler de ces Australiens qui ont beaucoup de mal à acheter une maison, Nicolas, même s'ils ont un travail et ils ont économisé assez d'argent.
Oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui travaillent à plein temps et ils disent qu'ils gagnent un assez bon salaire. Et ils ont mis de côté des centaines de milliers de dollars pour acheter une maison, mais ils sont très frustrés. Et on a vu des gens un peu autour du pays qui parlent comme ça, c'est-à-dire donc ils sont prêts, ils vont visiter une maison, ils offrent un peu plus d'argent que qu'ils ont demandé, et même à ce point-là, ils n'arrivent pas à acheter parce que les gens proposent encore plus. Donc eux, ils avaient proposé peut-être 10, 15, 20 millions de plus, 20 000 de plus, et ça finit par être vendu par 100 000 de plus. Donc c'est vraiment très, très serré, le marché. Et c'est même des gens qui ont le finance et le feu vert de leur banque. Donc tout est prêt pour eux, mais ça marche pas parce que souvent, les gens, les vendeurs ou les agences immobilières veulent des cash offers. Donc, c'est avec du liquide, c'est prêt à acheter immédiatement. Ou sinon, c'est des investisseurs, un investisseur d'un autre état ou une autre ville qui sont prêts à payer des prix beaucoup, beaucoup plus hauts. Il y a des villes autour d'Australie, à Perth, par exemple, si on met une maison à vendre, en moyenne, c'est vendu en 8 jours. Donc c'est extrêmement vite et en même temps il n'y a juste pas tellement de maisons à vendre non plus. C'est un peu comme ça partout. On n'arrive pas à construire les maisons assez vite. Donc c'est une situation bizarre. C'est des gens, ils sont pas au chômage, ils gagnent une assez bonne vie, ils ont leurs finances tout arrangé, ils ont des économies et malgré tout ça, ils ont encore énormément de balles à acheter une maison. Donc c'est pas une question d'argent, c'est juste une question de concurrence et de manque d'opportunités. C'est vraiment assez extraordinaire.
Merci Nicolas pour cette analyse. À très bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
C'était Ti Paradis, une chanson des frères Timal. Il est 13h37 sur les antennes de la radio SBS. Il est temps de passer à une autre courte pause et après la pause, on retrouve un nouvel épisode de l'histoire cachée de l'Australie. Dans cet épisode, il sera question notamment des astuces juridiques, parfois controversées, mises en place pour endiguer les flux migratoires incontrôlés. Et comme promis, place à présent à l'histoire cachée de l'Australie. Aujourd'hui, on examine la genèse et les dessous de la solution dite du Pacifique, un mécanisme de contrôle des flux migratoires mis en place pendant les derniers mandats du Premier ministre, j'allais dire président, pourquoi, mais Premier ministre John Howard entre 2001 et 2007.
Vous êtes avec SBS French.
Et donc, cette solution du Pacifique que le gouvernement Howard met en place entre 2001 et 2007 fait grincer les dents dans l'opposition à gauche parce qu'il la trouve très inhumaine et obtient une quatrième élection à John Howard, entre autres avec des réussites économiques qui sont liées à un contexte global assez favorable. Elle est mise en place en excisant du territoire national australien tout un tas d'îles autour de l'Australie. Parce qu'avant, certains réfugiés arrivaient par bateau sur des petites îles qui ne font pas partie de l'Australie, de la grande île, et cherchaient à obtenir un statut de réfugié. Donc ce que l'Australie fait, c'est en disant, écoutez, ce sont effectivement nos îles, notre territoire national, en revanche, ça ne vous ouvre pas les droits au statut de réfugié. Et si on vous attrape sur ces îles, on va vous envoyer dans un pays tiers. Et donc l'Australie met en place des camps de détention, à la fois dans ces îles excisées du territoire national et dans d'autres pays du Pacifique avec lesquels elle négocie des accords. Par exemple, l'île de Nauru, où l'Australie envoie des réfugiés qu'elle ne souhaite pas accueillir, qui finissent dans des camps de rétention pendant de très nombreuses années.
Alors, c'est sur ce point que j'aimerais bien qu'on revienne en détail, parce que effectivement, c'est une politique qui a un peu évolué au cours des 20 dernières années, mais qui, en gros, suscite la réprobation de toutes les ONG qu'elles considèrent comme attentatoires aux droits humains. Et vous l'avez dit, on a d'abord eu des centres de détention pour immigrants illégaux sur le territoire australien métropolitain, on va dire. Ensuite, il y en a eu sur les territoires outre-mer, on dirait en France, notamment à Christmas Island, qui, pour le résumer très rapidement, est un petit peu le Lampedusa australien, c'est-à-dire que c'est une île qui est relativement proche des côtes indonésiennes, en tout cas beaucoup plus que le continent australien, et finir donc effectivement par carrément délocaliser ces centres de détention dans des pays voisins, donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant quelques temps, et effectivement Nauru, dont la gestion de ce centre de détention représente aujourd'hui plus du tiers du PIB local. Comment on en est arrivé là? Pourquoi toujours repousser? Est-ce que c'est pour cacher la misère, les horreurs qui s'y déroulent? Pourquoi on recule toujours plus?
Oui. Vous savez qu'il y a même des législations qui ont été votées pour que les docteurs australiens qui se rendent dans ces centres aient complète interdiction de parler aux médias de ce qu'ils ont vu dans ces centres. Donc effectivement, on est dans des situations catastrophiques de privation des droits humains. L'Australie, chaque année, se fait taper dessus par l'ONU à raison, et même par les ONG et par le pape, pour son traitement des étrangers. Et en réalité, assez tôt, En 2007, l'Australie en prend conscience. Le gouvernement Rudd, travailliste, dit « Moi, si j'arrive au pouvoir, je vais démanteler la Pacific Solution de John Howard parce qu'elle est totalement inhumaine. » Et vous avez même des électeurs du centre et du centre droit qui sont assez d'accord. Le souci, c'est qu'effectivement, Rudd arrive au pouvoir, il fait à peu près ce qu'il dit, et il y a une multiplication des tentatives de réfugiés qui viennent par bateau au nord de l'Australie. La droite, évidemment, se frotte les mains, se jette dessus et déstabilise le gouvernement Rudd au point qu'il perde le pouvoir. Si bien que quand il est remplacé au sein même de son parti par Julia Gillard, qui était sa ministre de l'Éducation et qui devient Premier ministre et qui est de gauche, elle remet en place cette politique extraterritoriale du traitement des immigrés dits illégaux, pour avoir l'air forte sur la préservation des frontières souveraines, pendant même que la droite, tape les tambours pour la future élection qui se prépare, pour laquelle le premier ministre, futur premier ministre Tony Abbott sera élu à partir de 2013, et lui met en place l'opération frontière souveraine. Même la gauche, au moment où elle a balancé vers Gillard, s'est bien rendu compte qu'en fait, il était trop tard, que la politique, l'idée de frontières souveraines plaisait aux Australiens et qu'en fait, ils s'étaient habitués à cet écran de fumée qui est le suivant, ouverture des frontières pour les migrants économiques à hauteur de dizaines de milliers, entre 150 et 180, 190 000 par an, et en parallèle, fermeture à quelques centaines au pire quelques milliers d'immigrants dits illégaux qui viendraient par bateau. En réalité, les vrais immigrants illégaux en Australie, qui représentent des dizaines de milliers de personnes, ce sont les personnes arrivées légalement par avion, mais qui ne sortent pas des frontières de l'Australie quand leur visa arrive à expiration. Mais ça, personne n'en parle, parce que les Australiens s'en fichent. Ce qui compte, c'est l'image des bateaux qui arrivent sur la côte australienne. Ça leur fait peur. Et comme je vous dis, ça trahit des anxiétés très anciennes sur la colonisation même de l'île.
Et disons, après cette affaire et le fait que les travaillistes aussi ont fini par adopter cette politique très dure et même, à certains égards, illégale au regard du droit international, continuent de la soutenir en fait aujourd'hui et estime que c'est impossible de revenir dessus, peut-être qu'ils n'en ont même pas envie d'ailleurs.
Tout à fait, c'est une politique qui est soutenue par la plupart des Australiens qui se disent « bon, bah, écoutez, quelques centaines de personnes dans des prisons qu'on prive de liberté pendant plusieurs années vis-à-vis d'un pays que l'on sent en sécurité », alors qu'en fait l'équation, elle ne se présente pas du tout de cette façon-là. Mais c'est quelque chose de très potent dans la mentalité australienne. Et c'est tellement potent que vous avez un ancien Premier ministre, le Premier ministre Scott Morrison, qui était ministre de l'immigration de Tony Abbott à partir de 2013 jusqu'en 2015 de mémoire, dans son bureau de Premier ministre, avait un petit bateau, un modèle de petit bateau découpé, je ne sais plus si c'était du bois ou du verre, où il y avait marqué…
Je les ai arrêtés.
Je les ai arrêtés, rebrousser chemin. L'idée de turn the boat. Vous avez un premier ministre d'une démocratie libérale comme l'Australie, qui dans son propre bureau met de façon évidente pour que la presse, les médias qui viennent l'interview dans son bureau le voient, pour dire voilà, je suis dur contre l'immigration.
Je trouve effectivement cette anecdote très parlante parce que c'est un peu sur cette image que s'est construit le personnage politique de Scott Morrison, papy tape dur sur l'immigration, très dur même. Et dans le même temps, quand il était Premier ministre, je l'ai entendu à de très nombreuses reprises dire dans des discours et se féliciter que l'Australie soit, alors en français ça donnerait quelque chose comme la nation multiculturelle la plus accomplie au monde, the most successful multicultural country in the world. C'est un paradoxe énorme, non ?
Oui, c'est un paradoxe. C'est vrai que c'est un peu bicéphale, vous avez deux idées qui semblent opposées. Mais en fait, ce qui réunit ces deux idées, c'est l'idée d'immigration choisie. Et ça, c'est quelque chose qui a été porté très tôt par John Howard et c'est devenu un peu une mantra politique pour les successeur de John Howard, tant à droite qu'à gauche, hein, il faut bien l'avouer. Aujourd'hui, si vous alliez parler au Premier ministre Albanese, qui est un Premier ministre travailliste de l'immigration, il adopterait un langage peut-être plus humanitaire, mais le résultat est le même. Vous avez quand même des centres de détention. Le gouvernement, là, est en train de se faire taper dessus par la Cour suprême australienne parce qu'il a privé, justement, certains réfugiés de leur liberté. Donc, ce n'est pas un débat qui est fini. Il y a encore cette anxiété. Mais ce qui réunit les Australiens, c'est l'immigration choisie. Là où l'Australie n'a pas pu former assez, par exemple, de docteurs ou d'infirmières ou d'horticulteurs, enfin, sur des postes très précis, où l'Australie n'arrive pas à fournir pour son économie, vous avez des listes qui sont mises en place par les États, et si vous êtes n'importe quel citoyen de n'importe quel pays du monde et que vous avez les bonnes qualifications, le bon âge, etc., et les moyens, vous pourrez venir en Australie. Parce que l'économie australienne, elle est fondée sur la croissance de la population. Ce n'est pas un pays qui pense la décroissance à la fois démographique ou économique, pas du tout. L'économie australienne, depuis la colonisation, elle est grosso modo basée sur le même scénario, c'est-à-dire la croissance de la population. Donc, l'immigration, elle est vue comme quelque chose qui donne du travail aux Australiens. Simplement, ils ne sont pas prêts à accueillir les personnes qui cherchent à fuir la guerre, par exemple, ou les personnes qui sont persécutées pour des raisons politiques ou de genre dans tout un tas de pays.
Et alors, c'est le dernier point que je voulais aborder. Au vu de ce que vous venez de dire, j'ai trouvé ça assez surprenant quand ça a été annoncé. Mais donc, on l'a dit, en gros, c'est un pays qui assume totalement de choisir ces immigrés. En gros, vous pouvez venir si vous allez faire grandir notre économie. Et d'ailleurs, il me semble que les chiffres sont l'exact inverse de la France. C'est-à-dire que c'est très majoritairement une immigration de travail et une toute petite portion d'immigration familiale, alors que c'est à peu près le contraire en France. Et donc, très étonnamment pourtant, il y a quelques mois, l'Australie, première mondiale, annonce un accord d'asile climatique avec un petit pays du Pacifique, le Tuvalu. C'est environ 12 000 personnes, très très directement menacées par le réchauffement climatique et en l'occurrence par la montée des eaux. Et donc l'Australie qui, dans le cadre de cet accord, s'engage à accueillir toute la population du pays qui pourront donc s'installer en Australie, y travailler, y rester autant qu'ils le souhaitent. Un geste d'une telle générosité, j'ai envie de dire, on s'attendait pas à ce que ça vienne de l'Australie.
Je suis désolé d'être encore une fois l'historien casse-pied, mais alors la générosité dans l'accueil de ces 12 000 personnes, on peut la mettre à la poubelle, c'est n'importe quoi, c'est un effet d'annonce médiatique. Si l'Australie était vraiment généreuse, elle ferait tout pour que le Tuvalu ne sombre pas sous les eaux. Et par ailleurs, essaierait de réduire ses émissions de carbone pour combattre le réchauffement climatique. Donc la générosité en repassera, d'autant plus que cet accord se fait parce que une fois que ces territoires ne seront plus habitables ou seront sous l'eau, l'Australie pourrait récupérer la zone économique exclusive de Tuvalu. Donc en fait, en accueillant 12 000 personnes, vous agrandissez considérablement votre influence dans le Pacifique, au même moment où la Chine aurait des ambitions expansionnistes. Donc, il y a des raisons géopolitiques qui sont évidentes pour l'Australie, à un moment où, effectivement, elle se sent en danger par rapport au grand voisin chinois avec lequel elle commerce allègrement par ailleurs. Donc, effectivement, réfugiés climatiques, bel effet d'annonce, mais il y a beaucoup plus à gagner pour l'Australie en tant qu'État-nation que cet accueil de 10 à 12 000 personnes.
Eh bien, pour terminer cette dernière partie de cette mini-série sur l'histoire de l'immigration, là encore une fois, j'ai quelques œuvres à vous suggérer. D'abord, une excellente série produite par ABC, que vous pouvez donc trouver sur iView, mais aussi sur d'autres plateformes, qui s'appelle Stateless, et qui raconte justement ce que vivent ces aspirants à l'asile en Australie dans les centres de détention. Alors en l'occurrence, ça se passe dans un centre qui se trouve sur le territoire australien. Et c'est vraiment... Enfin, vous pourrez pas ne pas pleurer à un moment ou à un autre au cours de cette mini-série parce qu'elle est vraiment bouleversante.
Elle est très difficile, oui.
Et un autre film, alors ça parle d'un moment qu'on n'a pas évoqué dans cet épisode, mais qui, je pense, raconte bien justement la montée de ce discours anti-musulman du début des années 2000 en Australie, puisque en gros ça raconte les émeutes de Cronulla qui ont, pour le dire vite, opposé les blancs des banlieues du littoral de Sydney à ceux plutôt originaires du Moyen-Orient qui vivent à l'ouest de la ville et qui, eux aussi, de temps en temps, aiment bien se baigner. Ça a été un moment assez traumatique pour le pays. Et le film en question, donc, s'appelle Down Under. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça donne un éclairage sur ce moment assez difficile de l'Australie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Romain.
Et non, autant j'ai vu la mini-série, autant je n'ai pas vu ce film.
Bon.
Mais je vais le regarder, voilà, je vais vous écouter.
Et je ne sais pas où on peut le voir à vrai dire, mais sachez en tout cas qu'il existe. Merci beaucoup, merci Romain pour nous avoir guidés au fil de ces 5 épisodes sur l'histoire de l'immigration. Et puis à vous, chers auditeurs, à très bientôt. On abordera d'autres sujets, peut-être de façon plus succincte, mais merci en tout cas de nous avoir suivis. Et encore une fois, merci à vous Romain, à très bientôt.
Bonne journée, au revoir Grégory.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone. Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
C'était Love Me Please, une chanson de Catherine Ringer. Étant passé un rappel des titres de l'actualité de ce jeudi 20 juin. Un homme devant le tribunal pour une fausse alerte à la bombe qui a provoqué un bouclage partiel du centre de Melbourne. Et en France, un viol sur une mineure juive suscite l'émoi en pleine campagne électorale. Et au Liban, le chef du Hezbollah menace Chypre dans un discours télévisé. Voilà, c'est tout pour votre programme en français de ce jeudi 20 juin. Merci infiniment de nous avoir suivis. Prochaine édition, c'est ce samedi. Il y aura un autre programme le dimanche aussi. Bon après-midi et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.